Le dossier du bien commun cette semaine, le traitement des délinquants sexuels en prison, en écho à l'actualité chargée de ces dernières semaines, sur la question de la récidive, Antoine.
Oui, Caroline, les auditeurs seront probablement surpris d'apprendre que la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France. La part des délinquants sexuels au sein de la population des condamnés s'est accrue de 105% entre 1995 et 2003. C'est dire l'importance de ce type de délinquance qui pose des défis inédits à la justice. Et comme chaque fait divers suscite une nouvelle loi, les mesures s'accumulent sans vraiment qu'on les évalue. La récente affaire Évrard a incité les pouvoirs publics à préconiser une extension de l'enfermement après la peine en proposant de créer un hôpital-prison pour les délinquants dangereux en fin de peine. Est-ce la bonne voie ? Y a-t-il une alternative à l'enfermement illimité ? La solution consiste-t-elle à faire reposer toute la pression du système de protection sur le juge d'application des peines et de la psychiatrie sur le psychiatre, du soin sur le psychiatre ? Ne faudrait-il pas revoir l'ensemble de notre dispositif et analyser plus finement les blocages, les parties pris, les voies non explorées, les options écartées ? C'est ce que le bien commun vous propose de faire ce matin avec nos deux invités que j'ai déjà présentés, le docteur Sophie Baron-Laforêt, qui est psychiatre et hospitalier et qui a travaillé longtemps en détention, actuellement chargée d'une mission de prospective, elle nous en dira peut-être un mot, et un magistrat, Pierre Lemoussu, qui est vice-procureur à Bordeaux, mais qui fut longtemps juge d'application des peines à Marseille et qui est l'auteur d'un rapport intéressant sur la justice britannique. Alors je voudrais, avant de commencer, de rentrer dans la prospective, qu'on fasse une sorte d'évaluation. Évaluation des récentes déclarations qui ont été faites par la déclaration ministérielle la semaine dernière. C'est-à-dire, en gros, on a l'impression que plus les faits divers s'accumulent, plus le durcissement de la réponse se manifeste. Est-ce que c'est votre impression, Sophie ?
Oui, tout à fait, absolument. Alors, bien sûr, c'est vrai que j'ai beaucoup de réticences dans les mesures prononcées, mais je ne voudrais pas entrer dans la disqualification en jeu, et puis les mécanismes destructeurs dans lesquels nous mènent, et l'émotion, et surtout souvent les relations que mettent en jeu socialement ces acteurs.
Où l'idéologie répond à l'émotion, mais finalement ne fait pas tellement avancer le problème.
Voilà. Alors, effectivement, cette mesure, on peut l'entendre, l'idée des centres fermés, on l'avait déjà entendue depuis longtemps. Sans doute, peut-être, il faudra accepter cette idée. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne mette pas en même temps des mesures en amont, bien sûr. Et puis ensuite, un discours assez dans le tout ou rien. Hein. On n'a rien fait, on ne fait pas assez. Je pense qu'on a fait des choses, qu'on a fait des choix en France, qu'on peut contester, qui étaient assez radicalement différents des pays souvent nommés, qui sont plutôt de culture anglo-saxonne, et qu'on ne s'est peut-être pas donné les moyens de savoir pour qui, pour quels auteurs c'était efficace.
Quel choix a-t-on fait ? Comment est-ce que vous résumeriez le choix de l'option française ?
L'option française, il me semble, ça a été de proposer très tôt des soins en milieu carcéral de façon très large et pas spécifique. La France n'aime pas le spécifique. En termes de santé, elle avait déjà eu peur du spécifique autour de la toxicomanie, elle a peur du spécifique sur beaucoup de structures. Moi, j'ai le souvenir de l'arrivée du VIH en milieu carcéral, on avait très peur de ça, des pastilles.
La stigmatisation
nous fait peur, et je l'entends bien, je ne vais pas la soutenir. À la fois, comment est-ce qu'on peut soutenir du spécifique, ce qui a été le choix, par exemple, du Québec, qui est souvent cité, qui a créé une unité pour diffuser du savoir-faire, et puis passer cette étape. Je crois que c'est la question qui nous est posée actuellement, entre autres.
Sophie Baron-Laforêt, est-ce que vous ne croyez pas que quand on assiste à des proportions de 70%, 80% de détenus dans certains centres de détention, je pense à Mozac, ou je pense à Casabianca, ou bien sûr au centre de Caen, est-ce qu'on n'est pas de fait dans une concentration de facto ?
Bien sûr, puisque en fait, notre système français avait prévu que les soins en milieu carcéral, c'était surtout les maisons d'arrêt, puisque c'était aux prévenus qu'on devait les soins comme ailleurs. Au fond, la population pénitentiaire des condamnés, initialement, on s'en est moins soucié. On s'en est soucié que 10 ans plus tard. Et là, notre système a eu du mal. On a entré à ce moment-là dans une période budgétaire beaucoup plus difficile pour la santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les soins aux condamnés sont en panne et qu'on a besoin de les soutenir énormément. D'où le fait qu'on a concentrée des détenus qui ont augmenté pendant 10-15 ans de façon majeure dans les prisons françaises, sur les quelques endroits. Alors, Casabianda est un exemple à part, Mozac c'est une exclusion, mais on sait très bien qu'à Caen et au Muret à Toulouse, il y a une concentration parce qu'on sait qu'il y a un SMPR, c'est-à-dire un service de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Il y a, je dirais, un effort à faire sur conjuguer les logiques à la fois de peine et une logique de soins qui se veut réparatrice de ce que fait pas la peine.
Pierre Le Moussu.
Oui, je crois qu'il faut effectivement prendre beaucoup de recul par rapport aux déclarations peut-être excessives qui sont régulièrement faites ici ou là, et peut-être revenir à des choses assez fondamentales. On a une législation qui effectivement devient non plus un bégaiement, mais presque une législation répétitive. Je donne un exemple très simple. L'obligation de soins a été créée en France en 1958, en même temps que le sursis avec mise à l'épreuve, je l'expliquerai peut-être si le temps nous est donné tout à l'heure. On a créé l'injonction de soins, qui est une interaction entre la justice et la médecine, en 1998. Eh bien, depuis 2004, nous avons pas moins de 4 textes qui ont été pris exclusivement sur cette question des soins apportés aux délinquants sexuels.
Et qu'est-ce qu'ils ont apporté, ces différents textes ?
En réalité, il s'agit essentiellement, je ne devrais peut-être pas le dire de manière aussi crue, mais du virtuel. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des pratiques, comme l'a très bien dit Sophie Baron-Laforêt, il y a des pratiques extrêmement éclatées sur le territoire français.
Ce qui est un problème, on y reviendra bien sûr.
Tout à fait, mais qui sont en même temps très intéressantes. C'est le non-choix français, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu exclusivement privilégier une voie contrairement à d'autres pays. Mais en même temps, le législateur, le gouvernement, insatisfait de la situation existante, estime devoir à chaque fois réintervenir dès qu'il y a une difficulté. Alors même que le problème de fond vient de ce que les acteurs eux-mêmes sont totalement, à mon avis, perdus. Aujourd'hui, on a des injonctions paradoxales. Incarcérez-les, libérez-les, aménagez les peines. Nous avons une ministre de la Justice qui nous dit quand même attention à prononcer les peines que je vous demande de prononcer dans le cadre de la loi du 10 août.
Je rappelle qu'il y a une circulaire qui est partie pas plus tard qu'avant-hier sur cette question de de surveiller de très près les libérations, sous-entendu de s'opposer à toutes les libérations.
Et en même temps, on a eu un deuxième discours parallèle permanent qui est de dire... libérez-les. Et donc, c'est vrai qu'il est difficile...
Il y en a un qui est plus fort que l'autre, quand même. C'est-à-dire que le discours qui réclame plus de fermeté, plus d'enfermement, est plus fort que celui qui réclame plus de liberté et de libération, Pierre Le Moussu.
C'est indéniable. Pour revenir à l'observation très juste que faisait Sophie Baron-Laforêt, l'absence de choix. C'est vrai que l'administration pénitentiaire n'a pas fait de choix. Elle a fait un choix implicite pour la concentration de faits de délinquants sexuels dans certaines prisons. Elle l'a fait par défaut. C'est-à-dire que ça n'est pas une politique délibérée, choisie. Ça s'est réalisé tout simplement parce que le délinquant sexuel présente en détention des spécificités très particulières. C'est quelqu'un de silencieux, c'est quelqu'un qui est rejeté, c'est quelqu'un qu'il faut protéger.
Et qui ne pose aucun problème de comportement à l'administration pénitentiaire.
D'une manière générale, pour la plupart. Et donc, il peut présenter un gros intérêt, tout simplement parce qu'à Casabianda, c'est une colonie agricole, entre guillemets, qui, sur plusieurs centaines d'hectares, permet à des gens de travailler dans une relative liberté, entre guillemets, et donc qu'on peut donner à des personnes qui ont ce profil-là. Et Mozac présente également...
Qui sont en Dordogne, Casabianda se trouvent en Corse.
Tout à fait. Ce même type de problématique. Caen est totalement différent. Mais l'administration pénitentiaire... face à des demandes de détenus, a finalement créé, sans le vouloir réellement, des centres qui pour 80% d'entre eux, correspondent à des délinquants sexuels. Et, je termine, concernant ces situations, il n'y a pas de soins réellement organisés, planifiés dans ces centres, même si, bien sûr, les intervenants font ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a pas de véritable choix politique d'essayer de d'y voir clair par rapport à ces nombreux détenus.
Pas de soins organisés, docteur Baron Laforêt, c'est-à-dire que vous acceptez ce jugement assez sévère sur la politique française.
Oui, absolument. À Casabianda, c'est là qu'on a commencé à les concentrer pour des raisons de sécurité. Moi, j'ajouterais que les délinquants sexuels sont, d'une certaine façon, pas les plus valorisants à garder par l'administration pénitentiaire, par les surveillants. Ce sont des gens, finalement, le risque d'évasion est extrêmement faible. Ce sont des gens qui ne vont pas se confronter en face. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y aurait beaucoup à réfléchir sur comment, sur quel système on a construit la prison. Quelle était censée réinsérer ? C'était beaucoup quand même les petits vols, l'histoire qui était relative à l'argent, avec l'idée que finalement, même tout l'accompagnement social de la paix.
Allons jusqu'au bout. Est-ce que vous avez l'impression que la prison est construite pour eux ? Est-ce qu'elle est adaptée pour eux ?
Pas du tout, excusez-moi, mais je pense que justement, on est sur des règles qui sont dans nos règles culturelles, voire nos règles morales, qui sont des façons de bien gérer nos finances, nos temps, notre relation, etc., y compris conserver les liens familiaux, ce qui est, en l'occurrence, sur un certain nombre d'histoires de violences sexuelles intrafamiliales, impossible, qui met les acteurs au quotidien en situation difficile. Non, elle n'a pas été construite pour ça, y compris l'application des peines dans ces... Je dirais pas uniquement dans... on leur demande d'avoir des revenus réguliers. Ça, c'est bien pour des gens qui ont des recours, qui dépensent tout de suite. Eux, c'est pas ça. Ils savent très bien trouver un travail, même dans un monde où on ne trouve pas de travail.
Il s'agit souvent de gens qui sont insérés socialement.
Mais absolument. Ce sont des gens qui ont très bien compris la façade à laquelle il fallait répondre. Aujourd'hui, ce que nous craignons socialement, ce sont les chômeurs et les SDF. Ils vous répondent « travaille, toi ». Point. Ils ont un toit. Les travailleurs sociaux qui les suivent à l'extérieur, ils vont avoir le papier qui confirme qu'ils ont trouvé un travail, des revenus réguliers. Ils ne détournent pas l'argent. On est dans autre chose de la relation au monde social. Ils nous mettent face à des difficultés de relation, ils mettent les acteurs dans cette difficulté.
C'est autre chose, c'est ce que nous redoutons peut-être le plus, c'est notre peur la plus silencieuse, c'est le risque, c'est la menace. Et la menace, notamment sur des enfants, qui sont les plus vulnérables d'entre nous.
Absolument. C'est à la fois la menace, à la fois c'est l'attaque à ce qui nous a été présenté comme structurant notre société, c'est-à-dire le lien familial, la différence des générations, comment on se gère entre parents et enfants, et aujourd'hui avec les grands-parents, qu'est-ce qui se joue là ? Donc ça vient attaquer sur ces fondements culturels aujourd'hui, mis en cause pas seulement là, et on voit bien que ça nous menace. Effectivement, on en découle le grand danger, la menace, la peur, cette attaque fondamentale.
Pierre Lemoussieu, est-ce qu'on n'est pas, en réalité, ce risque ne réorganise-t-il pas tout notre système de justice qui est moins adapté, finalement, à la faute passée, à la rétribution, ce qui était la mission traditionnelle de la justice, la mission classique, pourrait-on dire. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une institution, je pense à la justice, à la prison ou à la psychiatrie, qui se réorganise comme un immense management du risque?
C'est le risque, si j'ose dire, vers lequel on tend. En tout cas, certains pays, l'Angleterre, que j'ai eu la chance d'approcher un tout petit peu, nous conduit vers cette voie-là.
Ils ont versé complètement cette logique.
Mais nous n'y sommes pas, pour plusieurs raisons. Vous posez la question, à quoi sert la prison ? C'est vrai qu'il y a des fonctions traditionnelles de la prison qui doit être contenante, qui doit permettre à l'individu d'expier sa faute, de protéger la société. Mais pour être plus précisément sur le cadre du débat, la loi prévoit, depuis de nombreuses années, que tout délinquant sexuel condamné qui fait l'objet d'une injonction de soins à sa sortie de prison peut se voir proposer des soins dès son incarcération. C'est une incitation aux soins, puisqu'il n'y a pas de soins obligés en prison. Et afin de permettre cette mise en place de soins pour lequel on va faire des propositions aux condamnés délinquants sexuels détenus, on doit l'envoyer dans des établissements pénitentiaires qui offrent des soins à cette fin. Il est très intéressant de lire l'étude qu'a réalisée l'ENAP sur cette question-là et qui révèle qu'en réalité, il ne s'agit absolument pas du tout d'un critère d'affectation des délinquants sexuels. Le critère d'affectation d'un délinquant sexuel détenu, c'est le rapprochement familial. Ce sont les lieux dont on a parlé, Casabianca, Mozac, Caen. Mais
c'est la gestion du stock, expression horrible, mais c'est finalement le critère déterminant.
À aucun moment, vous n'avez de prise en compte de cette question fondamentale de savoir à quoi peut servir la peine d'incarcération pour cet individu-là.
Et comment vous y répondez à cette question-là ? Vous qui êtes magistrat, qui avez été juge d'application des peines, aujourd'hui procureur, qui est des deux côtés de la barre, je me dirais, comment répondez-vous à cette question cruciale ? Quelle est la signification de la peine aujourd'hui pour un délinquant sexuel ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une signification de réprobation morale signifiée à travers la longueur d'une peine de rétribution à une fonction de protection à l'égard d'un risque ? C'est manifeste dans les déclarations gouvernementales de la semaine dernière.
C'est le danger vers lequel on tend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai cru modestement percevoir en allant chez nos amis anglais, puisqu'ils ont créé une peine indéterminée de protection du public qui peut être prononcée dans pratiquement toutes les hypothèses. Cette peine existe depuis 2005 seulement en Angleterre. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que cette peine a été utilisée de manière massive par les juges anglais et les tribunaux anglais. Et aujourd'hui, l'administration pénitentiaire anglaise et le gouvernement anglais doivent faire face à une difficulté, c'est que des personnes qui devraient normalement sortir ne sortent plus parce qu'on leur dit « vous avez une peine indéterminée, c'est à vous de démontrer que vous ne présentez plus de risque pour la société ».
Les Anglais nous tendent le miroir de ce que nous ne voulons pas devenir, c'est-à-dire dans le fond ce sont des peines indéterminées, ce qui serait quand même une régression incroyable, et en même temps c'est une sorte de petite perpétuité, ces peines indéterminées pour la protection du public.
Oui, petite perpétuité, mais qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux décisions qui viennent d'être rendues au mois de juillet, au mois d'août, donc très récemment, par des juges anglais.
Les déclarations du gouvernement à propos des délinquants sexuels ressemblent un petit peu à cette perpétuité qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire une peine indéterminée, sauf qu'elle sera gérée par des psychiatres qui prendront le relais, Sophie Baron-Laforêt, qui prendront le relais de la justice.
Oui, c'est tout le problème des soins. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a une époque, hein, jusque-là, on se disait, bon, ben, la justice à elle seule, la prison ne suffit pas, il faut des soins. Ensuite, il y a une tentation de la pression, je dirais, de la justice sur le soin pour faire face à ce qu'on n'arrive pas à contrôler. Et puis finalement, le soin est relégué à la fin, c'est-à-dire on fait de la prison, puis ça n'a pas marché. Après, alors, je ne pense pas qu'on a pensé que les soins, il s'agirait de soins après 15-20 ans de prison, mais au contraire, d'une garde rapprochée. Enfin, j'avoue, c'est une position pour les psychiatres qui est quand même très, très...
Alors, précisément, est-ce qu'une des difficultés de notre système n'est-elle pas cette opposition de plus en plus stérile et mortifère entre le soin et la mesure judiciaire,
absolument,
de la forêt. Et comment dépasser cette opposition ?
Ah oui, moi je crois que là on est à l'extrême, hein, de ce qu'il faudrait éviter, c'est-à-dire on fait se succéder des séquences alors qu'il faudrait qu'elles, au contraire, qu'on puisse, je dirais, les faire se juxtaposer en les différenciant. C'est-à-dire, certains, on imagine que ce monsieur qu'on cite là tout le temps, qui a 60 ans, qui en a à sa troisième récidive, mais de quoi avait-il besoin à la deuxième ou à la première condamnation ? Comment est-ce qu'on aurait pu conjuguer, hein, à la fois ce qui était sûrement de la peine, hein, sûrement nécessaire, et à la fois du soin ? Comment est-ce qu'on met en place du soutien social ? À quel moment ? Il ne faudrait pas se dire qu'ils sont tous comme ça. Quand on rencontre des personnes, un certain nombre, si on intervient assez tôt, on voit bien que là, ils récidivent 3 semaines, 7 semaines après la sortie. Mon présupposé, moi, en tant que psychiatre, c'est que sans doute, il y a un mécanisme psychique qui fait auquel, hein, qui devient prévalent et qu'il passe à l'acte, hein, dans quelque chose qui est très présent. C'est à 25 ou 30 ans qu'il faut évaluer ça, voir qu'est-ce que les psychiatres peuvent proposer, qu'est-ce qu'il en entend, comment est-ce qu'on intervient.
Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec, l'échec de la psychiatrie, ou du moins l'échec de notre approche française très psychothérapeutique, psychanalytique de la psychiatrie
Je ne vais pas vous suivre dans l'échec, non. Je crois que je voudrais sortir de ce genre de discours. Non, je crois qu'au contraire, la psychiatrie française a beaucoup travaillé, eu beaucoup d'écrits, des avancées dans des textes psychanalytiques qui ont avancé, hein, sur cela. Je crois que Claude Bailly a produit des écrits qui sont reconnus dans le monde. On a aussi beaucoup d'équipes françaises qui ont travaillé sur des techniques cognitives, sur d'autres techniques, aussi traitement anti-androgène. Je crois que non, en France, on a du potentiel. Par contre, on a aussi, on sort d'une époque où aussi, au sein de la psychiatrie, on était sûrement beaucoup plus séparés, beaucoup plus dans des luttes de chapelle, et qu'aujourd'hui aussi, d'autres champs de la psychiatrie nous apprennent à conjuguer les propositions thérapeutiques. Mais non, en France, on a des possibilités. Arrêtons ce discours.
Ce qui est intéressant dans l'exemple anglais que vous rapportez, Pierre Lemoussu, c'est précisément que ce qui arbitre cette tension entre la psychiatrie et le judiciaire, c'est une approche tout à fait nouvelle, une approche venant d'en haut, obligeant en quelque sorte au partenariat et obligeant à décaler l'approche. Finalement, si je vous suis bien, les Anglais disent le traitement des délinquants sexuels, ce n'est ni un problème psychiatrique, ni un problème judiciaire.
Oui, leur approche est radicalement différente de la nôtre. Ils considèrent qu'une fois qu'une personne est déclarée coupable, elle doit faire l'objet d'une évaluation. Et cette évaluation est basée sur des tables actuarielles, c'est-à-dire sur des études antérieures qui ont tenté d'évaluer la prédiction de récidive, ce qui est pour nous déjà extrêmement problématique.
Technique qui s'est fondée d'ailleurs sur la statistique financière. C'est très intéressant, c'est de voir que ça vient du secteur économique, la technologie actuarielle.
Et ils essayent de classer les individus en risque bas, moyen ou élevé. Et en fonction de ce classement dans un type de risque, ils vont proposer des types de traitements cognitivo-comportementaux, à savoir plus ou moins intenses en fonction de la gravité de la situation de l'individu. Et l'intéressé est intégré dans un programme national qui est décidé d'en haut. Toute la différence avec la France, c'est que la France a une situation complètement kaléidoscopique, si vous m'autorisez l'expression, où chacun travaille dans son coin, peut travailler très très bien, mais a du mal à faire remonter cette richesse d'expérience locale. Et on découvre, en lisant notamment le rapport de l'ENAP, c'est très intéressant, qu'il y a une approche effectivement psychiatrisante à la française, qui est majoritaire, sans vouloir être désobligeant, mais qu'il y a également tout un tas d'équipes qui font du cognitivo-comportemental sans forcément le dire ou le crier sur les toits, mais qui en réalité ont intégré tout un tas d'approches nord-américaines ou anglaises. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est que ça n'est pas catalysé, ça n'est pas fédéré.
Ce n'est pas organisé.
Tout à fait.
Sophie Baron-Laforêt, comment vous réagissez à cette expérience anglaise ?
Évidemment,
mal.
Prescrire du soin selon une échelle de risque, forcément, je ne peux pas y adhérer.
Oui.
Que le soin puisse concourir, dans certains cas, diminuer le risque, oui, je l'entends bien. Et ça fait partie, je pense, des fonctions de service public. Non, mais ça, on l'entend. Mais évidemment, nous, on va revenir sur une évaluation individuelle et pas seulement du risque, du fonctionnement de la personne. Bon, ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette expérience, c'est comment on conjugue et qui décide. Et je crois que là aussi, on voit bien, Pierre Lemoussu dit bien, c'est décidé d'en haut et il y a quelque chose qui coordonne le tous, quelque chose d'assez homogène. Nous, on est au contraire dans encore une évaluation du risque qui est l'expertise psychiatrique, qui réduit à un
très
individu,
individualisé,
très
sûr.
Individualisé, oui. Une seule profession, oui. Alors que je pense que là, c'est une erreur. Je pense qu'on devrait y avoir plusieurs personnes et plusieurs professions. Les psychiatres ne sont pas les professionnels du risque. Et puis ensuite, bien en amont, si on admet là, la proposition qu'il y a trois psychiatres qui décident ou pas si on va en hôpital fermé après la peine, pourquoi est-ce qu'une commission ne se réunirait pas après une première condamnation, une fois les recours utilisés ? Et puis, un peu à cette façon-là, mais d'une façon différente, selon les besoins évalués par tel professionnel, un magistrat, un directeur d'administration pénitentiaire, un travailleur social, un psychiatre, de quoi a besoin cette personne ? Et au bout de trois ans, regarde ce qu'elle devient.
Mais là, chacun va opposer son secret professionnel, sa culture. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans l'exemple britannique, et c'est moins l'Angleterre qui m'intéresse que la France, c'est que le pays le plus centralisé n'est pas celui qu'on croit. Et que c'est, en l'occurrence, la Grande-Bretagne. Et que nous avons affaire, me semble-t-il, à un des obstacles auxquels nous nous heurtons en France, c'est ce fameux rapport entre l'État et l'individu, qui est un rapport extrêmement paternaliste, individualisé, qui a ses bons côtés, et auquel participent à la fois la judiciarisation et la psychiatrie, mais qui montre aujourd'hui ses limites.
Oui, je vais rebondir sur le terme de secret professionnel qui serait un obstacle et qui est présenté comme tel régulièrement. Non, le secret professionnel, ce n'est pas un obstacle, c'est un outil. Hein. Sans secret professionnel, il n'y a pas de soins, en tout cas dans ce qui me concerne, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas échanger. Hein. Comment est-ce qu'on va apprendre à se faire confiance? Comment est-ce que les magistrats vont finalement faire confiance en des psychiatres, dont tout le monde se méfie, mais sans vouloir savoir combien de fois ils reçoivent les gens, quel traitement ils ont prescrit? Ben, ça dépend des gens, on va être déçu, y compris moi, comment je vais faire confiance dans le magistrat, dans ce qu'il aura décidé? Comment est-ce que le travailleur social, je vais lui faire confiance? Comment est-ce qu'on va apprendre à se parler? Nous parlons avec du vocabulaire, mais nous ne parlons pas des mêmes choses. Et finalement, ben, je crois qu'on a beaucoup à apprendre à travailler ensemble, si ça ne veut pas dire tout mélanger. Ce ne serait pas structurant pour ces gens-là, je ne crois pas.
Vous faites confiance au psychiatre, Pierre Lemoutu, le magistrat que vous êtes.
J'avais noté effectivement ce point. Je pense que le problème se pose bien au-delà. En réalité, la prison fonctionne de manière tellement concentrationnaire, entre guillemets, ne donnez pas plus de sens.
Concentrante au moins.
Voilà. Que chaque intervenant extérieur doit, pour survivre, afficher, à mon avis, c'est en tout cas le sens que j'y voyais, doit afficher ses valeurs fondamentales. Et donc, ce repli qu'on peut ressentir d'un certain nombre de professionnels du soin qui interviennent dans les SMPR, services médico-psychologiques régionaux, il y en a 26 dans les prisons françaises, ils sont pris en tenaille entre des logiques totalement différentes. Et donc, il est assez cohérent qu'ils tentent de garder ce qui constitue ce que j'appellerais les colonnes du temple, c'est-à-dire...
C'est paradoxal ce que vous nous dites, Pierre Lemoutu, parce que vous dites à la fois qu'il y a une tentative de repli de chaque profession, et en même temps, les professions ne savent plus, beaucoup d'entre elles ne savent plus tellement le sens de leur travail. Je pense notamment aux conseillers de probation et de réinsertion, je pense aux médecins coordinateurs en matière de suivi socio-judiciaire, que vous avez été, d'ailleurs, je le rappelle, Sophie Baron-Laforêt, c'est-à-dire qu'on multiplie aussi des fonctions, et ces fonctions se regardent en chien de faïence les unes les autres, et finalement sans partager de sens, même de sens commun à leur action.
Oui, sauf que le médecin coordonnateur, c'est une réelle innovation, et je pense qu'on s'en est pas encore suffisamment servi. Effectivement, c'est en cours.
Mais qui est ce médecin coordonnateur? C'est un médecin, c'est un soignant, c'est un administratif. Qui est-il?
C'est un médecin qui, effectivement, pas un soignant, mais qui, lui, va faire une partie de l'interface entre les soins et le travail social et la justice. Et c'est le début de ces interfaces et de cet apprentissage nécessaire pour commencer à travailler ensemble. Je pense que quand c'est mis en place, hein, les uns et les autres en sont assez satisfaits. Il y a d'autres interfaces possibles et on est encore sur une interface professionnalisée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays.
Pierre Lemoutu.
Oui, je considère en fait le médecin coordonnateur comme une très bonne innovation de la loi de 98, qui a été une vraie passerelle, qui permet véritablement entre le médecin traitant qui prend en charge en direct un délinquant sexuel et le juge qui tente de savoir un petit peu ce qui se passe tout en respectant le rôle de chacun, le médecin coordonnateur fait la passerelle. C'est une sorte de superviseur qui va donner à chacun l'information dont il a besoin, tout en respectant le cadre d'intervention initiale de chacun. Ce qui manque en France, me semble-t-il, c'est en fait la profession de criminologue, qui existe dans beaucoup de pays. Et on a ce paradoxe en France d'avoir beaucoup de délinquants sexuels qui ne présentent aucun trouble psychiatrique au sens clinique du terme. Il faut savoir qu'on considère que les trois quarts des délinquants sexuels sont des délinquants intrafamiliaux qui ont commis des faits pour la plupart d'inceste et dont le taux de récidive est très faible.
Et qui ne présentent aucune dangerosité sociale.
Psychiatrique. Au sens psychiatrique. En revanche, on va demander à des psychiatres, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'évaluer au plan criminologique la dangerosité de ces individus. Alors que les psychiatres ne sont pas, me semble-t-il, au départ formés pour cela. Culturellement, professionnellement, ils sont là d'abord pour évaluer les éléments psychiatriques. Et là, il y a manifestement un gros malentendu qu'il faudra un jour lever.
Un malentendu ou une béance, parce que ce n'est pas la première fois dans ces émissions que l'on dénonce l'absence en France de la profession de criminologue et plus encore de savoir criminologique qui permettrait peut-être de réagir, hein, pas forcément de contrer, mais de réagir. Cet impérialisme de la criminologie actuarielle à l'anglo-saxonne qui permettrait de montrer une voie française en matière de criminologie, respectueuse de notre tradition, respectueuse de notre sensibilité propre, de la manière dont, chez nous en France, je crois, je parle sous votre contrôle, Sophie Baron-Laforêt, dans laquelle la psychiatrie a été constitutive d'un très grand mouvement qui est d'humanisation de la peine, et dans laquelle la relation entre la psychiatrie et la justice sont constitutives de ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, absolument. Je crois que là, on a quelque chose vraiment à garder de cette culture-là qu'on n'a pas à discréditer complètement, hein, de ce travail ensemble, mais à le compléter, hein, sur des bases humanistes et déontologiques qui sont aujourd'hui menacées parce que nous avons trop peur. Et je crois que là, on est à l'aube d'un grand changement. Alors, si on veut.
Alors, est-ce que vous pourriez dessiner l'un et l'autre, cette émission approche de son terme, quelles seraient les lignes de ce grand changement? Quelles seraient les perspectives vers lesquelles il faudrait aller? On a déjà parlé de dépasser les cultures professionnelles et de créer une profession de criminologue, ce qui ramènerait chacun dans sa fonction, et judiciaire et psychiatrique. Quelles seraient ces grandes lignes de force de cette nouvelle R de la prise en charge des délinquants sexuels et des délinquants pathologiques, mais en général.
Oui, je crois que pour ce qui est de ma profession, hein, la psychiatrie s'est beaucoup construite à partir de la justice, hein, du non-lieu, hein, forcément, et puis de l'hospitalisation sous contrainte.
Sur laquelle on revient directement aujourd'hui.
Hein, absolument. Et puis sur cette dualité, c'est-à-dire soit on était fou, soit on était délinquant, les experts de Vétrier, et aujourd'hui encore, on est encore dans cette dialectique comme ça, très binaire. Ce qu'on a à construire, c'est comment est-ce qu'on peut... Et certains sont fous, d'autres délinquants, mais on voit bien, dans les prisons, il y a un certain nombre de personnes dont on soucie de leur état mental, leur fonctionnement psychologique, et vice-versa à l'extérieur. Donc comment est-ce qu'on va apprendre finalement à sortir de la dualité, combiner sans sortir de notre profession, parce que sinon on va être dans la confusion. Et je pense que ce genre d'acte nous plonge dans la confusion et que si on les suit, nous allons annuler nos capacités. Donc mon souci, c'est ça, c'est comment garder une trame et finalement arriver à sortir de ce côté binaire qui est stérile aujourd'hui.
Sans tomber dans l'impérialisme de l'évaluation, de la quantification et du comportementalisme sur fond actuariel, parce que c'est un peu ça quand même qui nous attend.
Voilà, c'est pas du tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des écoles de criminologie à Rennes, à l'Institut de criminologie et sciences humaines, qui au contraire travaillent sur quoi se fonde cette criminologie française, sur quelles valeurs, qu'est-ce qu'elle peut défendre, et je pense qu'on a beaucoup avancé là-dessus.
Pierre-Louis.
Je ne conseillerais pas le système anglais qui me semble extrêmement impérialiste et qui ne voit pas qu'en dehors de ses propres voies, il y a peut-être d'autres solutions. Je suis un praticien donc très pragmatique. Premièrement, arrêter de faire des lois. Deuxièmement, nous avons déjà de fait des centres où 80% des détenus sont des délinquants sexuels. Utilisons ces lieux comme lieu de laboratoire de réflexion, d'évaluation, d'expérimentation, sans tabou, afin, sur un temps suffisamment long, pouvoir estimer quelles sont les meilleures voies. Actuellement, vous avez une étude réalisée par le professeur Stoleru sur un certain nombre de délinquants sexuels pour évaluer les anti-androgènes. Et parallèlement, pourtant, on a délivré l'autorisation de mise sur le marché pour l'un des médicaments qui fait lui-même l'objet de l'étude. Je crois qu'il faut tout simplement remettre à plat, évaluer, estimer et utiliser ces lieux, afin de réfléchir et non plus suragir comme on le fait actuellement de manière complètement...
Et qui aurait la vue d'ensemble? Parce que ce que je comprends, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que nous sommes dans un foisonnement d'expériences, de tâtonnements, de difficultés, mais qu'il n'y a pas la vue d'ensemble. Et ce qui frappe beaucoup dans l'exemple anglais, c'est le côté extrêmement directif, le côté alors top-down, pour parler comme les Anglais, là aussi, une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire c'est très autoritaire, ça vient du centre, ça vient de Londres. Et ça manque curieusement en France. Qui serait le chef d'orchestre de cette réorganisation de ce recueil d'expériences de façon à les rationaliser pour vous, Pierre Lemoussu?
Qu'il y ait un chef d'orchestre purement opérationnel qui n'ait pas d'accès direct sur le contenu du soin, pourquoi pas, sur le cadre. Donc ça ne pourrait être, me semble-t-il, qu'un cadre administratif. Mais en revanche, et je dois vous avouer que j'ai quand même eu très très peur en voyant le système anglais, on est dans un système qui va très loin dans le contenu, qui ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'intervenant local. La grande richesse française, c'est que l'intervenant local fait des choses, encore faut-il le faire savoir et l'utiliser de manière collective.
Sophie Baron-Laforêt.
Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense que jusqu'à présent, on a fait des recherches qui sont soit médicales, soit sociales, soit juridiques.
J'avais fait la synthèse dans la recherche elle-même.
Moi, j'ai déjà proposé qu'on fasse des recherches, effectivement, avec déjà les trois professions en jeu, puisque c'est ça l'enjeu. Et donc, d'emblée, si on prépare ça dès l'incarcération, etc., avec les professionnels qui évaluent, qui regardent et qui regardent ce que ça devient, mais d'emblée, les trois professionnels. Ça, c'est essentiel parce que c'est déjà dans la recherche mettre en jeu le partenariat. L'autre chose, après, c'est comment est-ce qu'on conjugue ce qui doit être aménagé d'en haut et ce qui vient de la base. Alors là, je reviens moi à mon terrain, à ma profession. Côté sanitaire, on crée aujourd'hui des centres ressources sur les auteurs de violences sexuelles. Des centres ressources, c'est-à-dire des lieux qui vont être des formations pour les soignants, qui vont animer des réseaux santé-justice, favoriser la recherche. Donc on va partir du terrain, faire en sorte de diffuser du savoir-faire et puis pouvoir répondre où est-ce qu'on peut être suivi, comment est-ce qu'on va organiser en proximité. Ces centres ressources, on est en train de penser à les fédérer et il faut qu'il y ait à la fois une conjugaison de ce qui est de la recherche et de ce qui est de l'exemplarité, du modèle, du soutien. Et après, comment est-ce que de la base, mais aussi de la base sociale, il y a une réforme des DESPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été réformés. Ces services-là, depuis 5-6 ans, ils s'organisent. Comment du terrain, moi j'ai entendu diverses expériences très variées sur le territoire, entre qui s'en sert, comment est-ce qu'ils sont formés, comment on va faire des formations conjuguées.
Mais là, vous parlez de recherche et de formation, ce qui est tout à fait indispensable. Et moi, ma question, c'est au niveau opérationnel. Les pouvoirs publics, et c'est tout à fait respectable, doivent répondre politiquement. Alors, politiquement, comment mettre en place une politique intelligente de réaction aux agressions sexuelles?
Un mot sur la formation, parce que c'est aussi du terrain. Ça veut dire, en formation, ensemble, il y a des acteurs de terrain et ils commencent à travailler ensemble. Et ça, c'est opérationnel.
Y a-t-il une véritable politique de santé publique en matière de prise en charge des délinquants sexuels?
Vous semblez dire que non.
Je demande à la voir.
C'est le thème de notre congrès très prochainement à Paris, 14, 15, 16 septembre à la Porte Maillot. On a un congrès avec tous les francophones, les Québécois, les Belges et d'autres qui viendront d'étrangers sur ce thème, où le thème justement, c'est les enjeux de santé publique aujourd'hui sur ce thème. Alors j'espère que vous serez nombreux à y venir.
Merci beaucoup au magistrat Pierre Lemoussu, au psychiatre Sophie Baron-Laforêt. Je rappelle pour nos auditeurs le rapport du GIP, du groupement de recherche justice, intitulé « La prise en charge pénitentiaire des auteurs d'agressions sexuelles », qui est un document très important, sous la direction de Joséphina Alfarez et de Nathalie Gourmelon.